podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier de frontières des séries. C'est difficile de passer à côté de Newsroom quand la série a été lancée en 2012. Il faut dire qu'elle était créée par Aaron Sorkin, dont la réputation n'était plus à faire après À la Maison Blanche et The Social Network, le biopic sur Mark Zuckerberg. Trois saisons plus tard, la série ne laissera probablement pas le souvenir de ses deux succès précédents. Le côté bavard et moralisateur, l'aspect soap opera et l'image du journaliste n'ont pas toujours plu. Le casting est plutôt de haut vol. Emily Mortimer a joué dans Shutter Island. Dev Patel était le héros du film Slumdog Millionaire. Et surtout Sam Waterston, le Jack McCoy de Law and Order, incarne le directeur de la chaîne. On ne les attendait pas tous là. Jeff Daniels, qui joue le rôle principal du présentateur de JT, a joué dans Dumb and Dumber, Arachnophobie, Les 101 Dalmatiens, autant dire des rôles qui n'ont rien à voir. Cerise sur le gâteau, la directrice de la chaîne est incarnée par Jane Fonda herself. Notre Jane Fonda à nous, c'est Sarah Sepulcre, c'est elle qui va nous parler aujourd'hui de The Newsroom. Sarah, bonjour.
5, 6, 7 et 8.
Vous faites très bien, très cher. Et puis, pour nous accompagner dans ce cours de gymnastique cérébrale, voici Cindy Willem, bonjour.
Bonjour.
Alors Sarah, Aaron Sorkin nous a habitués à explorer notre monde contemporain, ce qu'il fait de nouveau dans cette série, en s'attardant cette fois sur le milieu du journalisme et des chaînes de télévision, donc.
Et oui, il n'y avait pas beaucoup de suspense, hein, parce que Newsroom, ça signifie rédaction, donc je pense qu'on avait assez vite compris.
Ça aurait pu se passer dans un journal ou dans une chaîne de radio aussi.
Voilà, mais ça se passe dans une chaîne de télé ici.
Et ça avait déjà été fait surtout avant.
Quoi, les autres journaux ?
Oui. Oui.
Les chaînes de télé un peu moins. Mmh. En tout cas, du côté news pur en tant que tel. On suit la rédaction du journal du soir, l'équivalent de notre 20h ou de notre 19h30 ou de notre 19h. Ça dépend sur quelle chaîne vous regardez le JT du soir. Donc on est sur une chaîne du câble américain qui s'appelle ACN pour Atlantis Cable News, qui doit son nom au fait qu'elle est basée près de l'Atlantique. Et donc à New York. Quand la série débute, la rédaction est en pleine crise parce que le présentateur vedette, un espèce de cow-boy solitaire incontrôlable, a eu des déclarations fracassantes sur un campus. Il a notamment dit que les USA n'étaient plus le meilleur pays du monde, avec les Américains pour le découvrir à ce moment-là, évidemment. Mais bon, soit. Donc ça fait, aux États-Unis, un espèce de scandale. C'est un peu comme si, je sais pas moi, PPDA, Pujadas disait que la France est un pays de déchets, j'en sais rien. Bon, bref.
Comme si Patrick Poivre d'Arvor faisait une fausse interview de Fidel Castro.
Oui.
Mauvais exemple.
Exactement. Et donc, il est retiré de l'antenne. Et quand il revient, il découvre qu'on lui a donné une nouvelle productrice, enfin l'équivalent du producteur, les fonctions ne sont pas toujours identiques. Hein. Mackenzie McHale, et qui n'est pas du tout inconnue de ce présentateur, puisqu'ils ont eu une relation amoureuse et ils ont rompu. Donc leurs relations vont être compliquées, on l'a déjà compris. Il essaye évidemment de s'opposer au fait qu'elle peut arriver, mais il n'y arrive pas. Sinon, il n'y a pas de série, évidemment. Elle a une grande idée du journalisme et décide de réformer en profondeur la ligne éditoriale de l'émission. Fini le spectacle. Will McEvoy était reconnu comme étant un présentateur qui passait les plats et qui ne fâchait personne. Et donc, ça, c'est terminé. À partir de maintenant, tu n'es plus le monsieur que tout le monde aime bien et que les politiques aiment bien et que les téléspectateurs aiment bien. Mais à partir de maintenant, on va faire les fondamentaux du journalisme. On va vérifier, on va être éthique, on va pas faire de concessions. On va faire du journalisme d'investigation, la recherche de la vérité. On va rentrer dans l'art des politiques. Et forcément, tout ceci va rentrer en contradiction avec ce que la chaîne veut, c'est-à-dire des audiences. Parce que forcément, quand le présentateur est un peu un Jean-Pierre Pernaut, ben, ça attire le public. Quand il décide de faire un travail de journalisme, d'investigation et de fâcher un peu tout le monde, ben forcément, ça a un coût.
Vu le nombre de name-dropping qu'on a déjà fait depuis 4 minutes, à mon avis, on va se faire des amis aujourd'hui.
C'est pas grave. Donc voilà. On suit à peu près une dizaine de personnages dans cette rédaction. Il y a d'abord Will McEvoy, qui est donc ce présentateur vedette du journal. Et vous devez vous attendre, si vous n'avez pas encore vu la série, à un journal d'un format extrêmement différent de ce qu'on peut connaître ici en Europe francophone, en tout cas. C'est-à-dire que le journal dans les pays anglo-saxons, c'est principalement des directs, des face caméra et des experts. Donc on n'a pas tout cet aspect reportage sur le terrain, long reportage, etc. Un petit peu, mais c'est pas ce qu'ils font le plus. Donc effectivement, on a aussi un journal dans lequel il y a des publicités, etc. Donc c'est plus véritablement il parle d'un chef d'orchestre, c'est un peu ça, effectivement, hein, donc Will McAvoy, avec cette capacité, par exemple, aussi d'improviser sur antenne, qui est assez importante. Will McAvoy est l'image de la chaîne, vous voyez, vraiment tout à fait ça.
Et dans cette série, justement, est-ce qu'on va plutôt voir la vie de ces personnages ou est-ce qu'on va voir les émissions qu'ils produisent et les journaux ?
Alors, on est dans une série dans laquelle on a l'impression que la vie des personnages privés et leur vie professionnelle, c'est la même chose et qu'ils vivent dans leur bureau. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Mais c'est axé principalement sur leur profession et sur la fabrication du journal du soir, même si, ben, forcément... Je vais en parler tout à l'heure, ils tombent amoureux, etc. Donc forcément, une partie de leur vie personnelle se passe au bureau.
Oui, c'était ma question aussi. Ça veut dire qu'on est dans un milieu très, très fermé au final.
Oui.
Ils couchent entre eux, ils sortent entre eux, et il y a très peu de personnes extérieures qui arrivent à pénétrer ce milieu, finalement.
Oui, et on est principalement dans la rédaction. Donc on est vraiment, effectivement, dans un milieu relativement fermé. Alors, je disais une dizaine de personnages. Will, Mackenzie McHale, qui est donc la productrice du programme, ancienne petite amie... de Will et relation à redéfinir, en tout cas entre ces deux-là. On a Jim Harper, qui est un ami de Mackenzie, qu'elle engage comme chef d'équipe, puisque quand elle arrive comme productrice, elle peut amener certaines personnes. Harper en fait partie. Il y a Maggie Jordan, qui était une jeune journaliste assistante de Will McAvoy, qui va être promue d'ailleurs par Mackenzie. Donc elle porte un peu tout ce qui est jeune journaliste qui doit faire ses preuves, etc. Sloane Sabit est une économiste reconnue qui a deux doctorats et qui tient une critique économique dans le journal, donc c'est plutôt l'expert, enfin le journaliste expert. Don Kiefer, lui, il est producteur du programme qui suit, c'est-à-dire le journal de la nuit. Neil Sampat, il est responsable digital de la rédaction, donc c'est lui qui doit animer les réseaux sociaux, et il y a une partie des discours et des récits qui tient sur un peu cette confrontation entre anciens et nouveaux médias, et ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, est-ce que les amateurs alimentent le fil d'information, est-ce que ce ne sont que les journalistes, etc., etc. Et puis il y a Charlie Skinner, le directeur de l'information, qui joue souvent les intermédiaires entre les journalistes et la direction de la chaîne. Charlie Skinner, c'était donc le personnage de Law and Order. La direction de la chaîne, c'est Leona Lansing et son fils, Riz. Et Leona, c'est donc Jane Fonda. Donc là, on a aussi tout cet aspect intermédiaire entre les financiers, ceux qui doivent ramener les sous, payer les gens, si accessoirement, et cette vision un peu idéaliste du journalisme. Aaron Sorkin a développé cette idée-là alors qu'il travaillait encore sur le film sur Zuckerberg. C'est pas la première fois qu'il parle de l'univers de la télévision, puisqu'il était le créateur de Sports Night et de Studio 60 on the Sunset Strip.
Une sitcom avec Matthew Perry qui avait fait un peu un flop, parce qu'elle était en concurrence directe avec 30 Rock, qui elle aussi présentait les dessous d'un show télévisé du style Laurent Ruquier et compagnie.
Ouais. Alors ici, cette série-là, donc, il s'intéresse véritablement à l'information générale, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant, et il a pu observer le fonctionnement d'une rédaction, d'une chaîne câblée aux États-Unis. Directement, il annonce qu'il ne veut pas porter un regard cynique sur la profession. Dans le TV Guide, il dit que les médias font le mieux qu'ils peuvent dans un contexte commercial, politique et institutionnel compliqué. Il a déclaré au Hollywood Reporter que la série était un regard idéaliste, romantique, fanfaron, parfois comique, mais très optimiste sur un groupe de personnes qui sont généralement considérées très cyniquement. Donc c'était dit dès le départ qu'on n'allait pas avoir une critique acerbe du journalisme, etc. Il prétend faire la même chose que dans À la Maison Blanche, où là aussi, il disait que les politiciens étaient généralement critiqués, vus comme tout noir ou tout blanc, et que lui, il avait un peu envie de ramener de l'optimisme dans ce genre de milieu et dans ce genre de fiction. Et c'est très clairement ça qu'on trouve en fait dans Newsroom. C'est un journalisme idéaliste. Ils font toujours ce qu'il faut. Ils sont honnêtes, ils prennent le temps de vérifier toutes les informations et de les croiser, d'avoir au moins deux éléments qui se rassemblent. Ils ont des carnets d'adresses extrêmement riches, ils ont toujours du bol. Le premier épisode s'ouvre sur la crise de cette plateforme pétrolière qui prend feu dans le golfe du Mexique. Et comme par hasard, Jim Harper, qui vient d'arriver à la rédaction, a deux personnes dans son entourage qui travaillent pour BP et pour la société qui a dû faire des tests sur le ciment qu'ils ont utilisé et qui lui téléphone pour dire « Tu sais, c'est pas juste un incendie, ça va être un truc affreux. » Et ils le sortent avant tout le monde. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on a régulièrement dans cette série, par exemple.
Et qui n'est que très peu crédible quand on a vécu dans une rédaction.
C'est ce que les journalistes du monde entier ont dit par rapport à cette série, qu'effectivement, ben, on est face à une vision du journalisme exceptionnelle.
Et qu'en général, quand on doit toucher un témoin, ben, il faut appeler 4, 5, voire 10 personnes avant d'avoir la bonne personne au téléphone.
Voilà, et en plus, ils ne traitent jamais des chiens crevés.
Oui.
Voilà.
Avant d'en savoir un peu plus justement sur la façon dont ils voient le journalisme, est-ce qu'on ne s'écouterait pas un petit extrait ?
Alors, je vais vous passer carrément l'extrait ce jour où le président des États-Unis annonce la mort d'Oussama Ben Laden, vous voyez, dans le genre, c'est toujours les faits importants. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, vous allez voir, c'est qu'on passe d'une vision héroïque du journalisme, on sent la rapidité, le suspense, puisqu'en fait la question c'est, ils savent très bien ce que le président va dire. Ils ont pu vérifier leurs informations, alors que d'autres ne savent pas ce que le président va déclarer. Eux, ils savent ce qu'il va déclarer. Donc la question c'est, est-ce qu'on débute le journal plus tôt que prévu ? Avec le directeur de la rédaction, Charlie, qui veut pas. Parce qu'il dit non, on doit faire notre travail, quelques minutes ne vont pas changer les choses, on attend d'avoir le feu vert de la Maison Blanche avant d'annoncer les choses. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce jour-là, normalement, le journal était fini. Donc ils étaient en train de faire la fête, la rédaction était en train de faire la fête pour fêter l'année. Ça faisait un an qu'ils avaient repris les news. Et donc, oui, il a fumé du hashish. Et donc, il est complètement défoncé. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous allez l'entendre, il n'a pas vérifié son GSM et le feu vert, il a reçu depuis 20 minutes. Et donc, on passe de tirade complètement burlesque sur Will qui fait pas son travail, qui est complètement défoncé, qui sait même plus comment on allume son GSM, à l'annonce sur antenne qui est du lyrisme patriotique à 100%.
On devrait l'annoncer.
Jay Carney ou un autre porte-parole nous aurait prévenu pour nous dire que c'était bon.
Et il nous aurait appelé ensuite pour nous supplier de ne pas en parler.
Je ne suis pas prêt à prendre ce risque.
T'as regardé tes emails il y a longtemps ?
Il y a 15 secondes.
Et toi, t'as vérifié quand la dernière fois ? Regarde ton portable. Appuie sur les boutons.
Ah oui. Alors, bon, pas ce soir, hein, mais dans les jours à venir, vous vous souviendrez de ce moment comme de quelque chose d'hilarant.
Tu l'as reçu il y a 20 minutes, Will.
Ouais, qu'est-ce que ça dit ?
Tu as le feu vert pour parler d'OBL. Montre-leur qui est le patron, comme on l'a fait là-bas.
Et c'est de qui ?
Joe Biden.
Vous vous foutez de moi ?
On jouait au baseball ensemble quand il était encore au Sénat. Lui, il sait que ça peut faire mal.
Va tout de suite au studio !
Ça y est, on a le feu vert !
Qu'est-ce que t'es devenu un si mauvais journaliste ?
Ah, du calme, Charlie. Profite de l'instant présent.
Il est l'heure de nous rendre l'antenne dans 30 secondes.
Ça marche. Washington, on reprend l'antenne dans 30 secondes. Ça, c'est bien vu.
Prépare le bandeau.
Ça y est.
Fais-le pour moi, Will.
Bonsoir, ici Will McAvoy en direct de New York. ACN est maintenant en mesure d'affirmer avec certitude que pour la première fois depuis 30 ans, le monde n'a plus à avoir peur d'Oussama Ben Laden. Dans quelques minutes,
dans un discours adressé à la nation, le président annoncera que grâce à une opération top secret coordonnée par les forces spéciales américaines, il a été possible d'abattre ce soir le leader d'Al-Qaïda à l'origine des attaques meurtrières du 11 septembre 2001.
C'était il y a 9 ans, 7 mois et 20 jours. L'homme, devenu depuis le criminel le plus recherché des États-Unis,
avait pris la vie de 2977 de nos enfants, parents, amis et collègues. Cette journée nous avait transformés
en une nation tout autre, plus méfiante et par conséquent plus hostile. Et bien que rien, pas même cette victoire attendue depuis si longtemps, ne puisse ramener à la vie les êtres chers perdus lors de cette terrible matinée, ce soir à New York, en Virginie, en Pennsylvanie, partout aux États-Unis et dans le monde, servons-nous de cet événement pour nous rappeler qu'à travers son histoire, les jours les plus sombres de l'Amérique ont toujours été suivis par ses heures les plus glorieuses. Et maintenant, en direct de la Maison Blanche, le président des États-Unis d'Amérique.
Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaïda.
Suite à cet extrait, est-ce qu'on nous parle aussi de faits réels dans la série ? Est-ce que c'est assez réaliste ?
On nous parle de faits réels, puisque Sorkin a pris le pari de ne pas inventer des faits fictifs sur lesquels on pouvait parler, mais de partir de faits qui ont réellement lieu dans la société avec 2 ans d'écart, donc qui reprend des éléments qui ont eu lieu 2 ans avant. Le pilote s'ouvre sur donc ce jour où la plateforme pétrolière de BP a pris feu au large des États-Unis. Vous venez de l'entendre, on parle de la mort d'Oussama Ben Laden, on parle de Fukushima. La première saison, en fait, chaque épisode est centré sur un fait réel et on voit comment la rédaction le traite.
Jamais, comme tu l'as dit tout à l'heure, les chiens écrasés
non.
ou le nombre d'accidents qu'il y a à New York.
Oui, non, évidemment. Et on ne reçoit pas un obscur échevin des travaux d'une petite ville du Minnesota.
C'est toujours une journée exemplaire, mais est-ce qu'il donne l'impression que ces journées se suivent et se ressemblent, ou bien ce sont des journées qui sont tirées au fur et à mesure, parce que l'histoire, finalement, les histoires d'amour et les histoires affectives doivent se suivre quelque part.
En fait, c'est des journées qui sont prises plic-ploc et on voit pas nécessairement une continuité directe.
Donc il y a clairement des ellipses.
Oui, il y a clairement des ellipses, oui, tout à fait. Maintenant, bon, on sent que c'est des histoires qui sont amenées petit à petit, au niveau personnel notamment, mais d'ailleurs, il y a la date pour la première saison. Vous avez la date du jour en question. La seconde saison, elle fonctionne très différemment parce qu'elle est focalisée principalement sur une enquête menée par la rédaction sur le fait que les États-Unis auraient utilisé du gaz sarin durant la guerre en Afghanistan. C'est dans la fiction quelque chose qui est appelé l'opération Genoa, qui est d'ailleurs un fait fictif. La rédaction, en fait, va travailler là-dessus. On va voir comment il vérifie les choses. On va voir comment Mackenzie décide de ne pas mettre au courant Will et tous les journalistes pour pouvoir en garder certains qui vont arriver avec un regard frais sur l'enquête pour pouvoir dire oui ou non. Et Will, en fait, est mis au courant à la toute fin. Et c'est lui qui décide si ça tient ou pas. Et donc, ils veulent avoir des témoignages, ils veulent avoir des preuves, des vérifications que c'est vrai. Et en fait, ils lancent leur reportage et c'était pas vrai. Ils se sont fait avoir par certains de leurs sources. Et on montre ensuite toute l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé et où ça a coincé. Petit à petit, on voit le travail de l'équipe. On voit le travail de l'avocate de la chaîne qui va les préparer un peu aux conséquences que ça va avoir. En même temps, on a aussi toute la campagne électorale de Mitt Romney que Jim va suivre. Et la
Il continue
défense...
quand même à avoir des faits réels.
Mélangé.
Ouais. Okay.
Et on a la naissance du mouvement Occupy Wall Street que les journalistes considèrent comme pas du tout intéressant pendant tout un temps sans se rendre compte qu'il va là se passer quelque chose. Neil Sampat, qui est justement cet administrateur des réseaux sociaux et d'internet de la chaîne, a très bien compris lui et essaye de voir des choses. Il y a aussi l'exécution de Troy Davis qui est amenée petit à petit. Donc là on a des choses qui sont plus non plus épisode par épisode mais qui se déploient sur toute la saison. La troisième saison elle débute par l'attentat de Boston. Et une histoire de fuite de documents officiels. Neil Sampat, de nouveau toujours ce personnage qui est donc sur les réseaux sociaux, etc., va recevoir d'une source des documents officiels qui fuitent, genre Snowden ou Wikileaks. Mais en fait, ça va se retourner contre lui et contre la rédaction parce qu'ils vont être accusés d'espionnage. La question, c'est est-ce qu'on lance le sujet ou pas? Et surtout, comment est-ce qu'on se défend journalistiquement? On ne veut pas donner nos sources, on risque de passer au tribunal, on risque d'être emprisonné, etc. Et donc, vous voyez que les trois saisons sont très différentes et organisées de manière assez différente, mais mélangent des faits réels et partent de faits réels. Les autres éléments, on sent qu'ils ont été inspirés, évidemment, de faits qui auraient pu être réels, l'opération Genoa ou cette fuite de documents officiels, mais sans nécessairement... être des éléments réels.
Je crois qu'on en a déjà parlé dans plusieurs émissions de Frontières des séries, mais qu'est-ce qu'on peut penser ici, dans ce cas précis, de ce mélange de faits réels, de vraies actualités, avec des actualités inventées et une histoire totalement inventée aussi?
Alors c'est là que plein de gens ont trouvé un côté très moralisateur. C'est un peu facile, 2 ans après, de se dire « cet élément de BP, ça aurait dû être traité comme ça ». Et je vous l'ai dit, c'est très bavard, c'est très moralisateur. À partir du moment où Mackenzie décide de faire du vrai bon journalisme, ils font plus que du vrai bon journalisme. Il n'y a plus personne qui foire, ou si un petit peu de temps en temps. Et donc on a ce que, idéalement, une rédaction aurait dû ou pu faire à ce moment-là. Et donc parfois, ça a un aspect vraiment très... Je comprends le point de vue de Sorkin qui veut amener de l'optimisme et montrer un peu une bonne manière de faire. Mais en même temps, on se dit... Oui, mais c'est complètement décalé par rapport vraiment à la réalité du métier, par exemple. Et donc, ça donne parfois un aspect un peu moralisateur. Maintenant, ça donne aussi un aspect intéressant parce qu'effectivement, les gens qui ne savent pas du tout comment une rédaction peut fonctionner voient quand même des choses intéressantes, voient les coups de fil à donner, les témoins à contacter, il faut s'occuper des sous-titres, etc. Et on voit une régie en action. Donc, des choses qui sont intéressantes et d'autres pas, mais l'aspect moralisateur est quand même assez piégeant, je trouve, dans cette série-là. Un autre élément qui me paraît intéressant, par contre, c'est que ces journalistes ne sont pas hors contexte. Ces journalistes appartiennent à un monde. Une rédaction, elle appartient à une chaîne, c'est une entreprise qui doit faire des bénéfices. Charlie Skinner est toujours en lien avec la rédaction. Il subit des pressions de la direction pour améliorer les audiences, par exemple, et comment on fait, etc. Une chaîne, ça signifie aussi des actionnaires qui veulent avoir des bénéfices. C'est une entreprise qu'on peut revendre, c'est une entreprise qui peut être achetée. Forcément, ça a des implications sur leur ligne éditoriale. Et ça, je trouve que c'est un aspect intéressant, par contre. Alors, je ne dis pas non plus que c'est du plus réaliste constamment, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on prend conscience, si on ne le savait pas, par rapport à cette chaîne-là, qu'effectivement, avoir un patron de chaîne peut avoir des conséquences sur l'information, sur la manière dont on l'a fait, que forcément, quand on est un présentateur comme Will, on a à la fois un regard sur ce qu'on devrait faire, puis aussi sur les audiences, puisqu'en fait, ben, ils risquent d'être tout simplement licenciés, ces journalistes, si certaines choses n'arrivent pas. Et je trouve aussi que pour certains éléments, la série s'attaque assez bien aux mutations du journalisme contemporain face aux réseaux sociaux, à la manière dont on peut intégrer ou pas ce qui vient du peuple, les informations qui arrivent à travers Facebook ou sur les boîtes mail, quelles sont les choses qui sont dangereuses, pas dangereuses, pourquoi les journalistes plus traditionnels n'aiment pas, etc. Donc ça, je trouve que ce sont des choses qui sont assez intéressantes.
Avant de continuer, on s'écouterait peut-être un deuxième extrait.
Cet extrait-là, c'est un extrait du pilote. C'est le moment où Charlie annonce à Will qu'il a engagé une nouvelle productrice. Et où il comprend très vite qu'en fait, il s'agit de son ex. Et en gros, on comprend que Charlie lui fait un sérieux enfant dans le dos. Il s'est arrangé avec les avocats de la chaîne pour revoir tout le contrat de Will et pour vérifier qu'effectivement, Will n'a pas de droit de regard sur le producteur. Parce qu'il faut savoir que les présentateurs vedettes aux États-Unis ont énormément de pouvoir, même au sein de la boîte. Et donc, il a réussi à contourner certaines lignes du contrat de Will pour pouvoir ne pas lui demander son avis sur l'engagement de cette productrice, donc de son ex, de Mackenzie. Et vous allez voir que le ton monte. Vous allez pouvoir apprécier deux choses, à mon avis, le rythme du dialogue et le ton des personnages.
I hired you a new EP. I'm never going on vacation again. You hired a new EP without my meeting him?
Her?
Without my meeting her?
No, you've met her.
Who? Charlie, have you hired to run my show without consulting
you
me?
You were unreachable. Only one person knew how to get in touch with you.
It was you!
I have to right the ship. You know that for this particular job, there's no one better.
You're not talking about Mackenzie.
I had to right the ship. You're too big an asset to screw around with, and your focus group data isn't saying what it said 3 weeks ago.
Charlie.
She was in Peshawar
for 4 months. Green zone for a year before that. The guys were filing stories from caves. She comes home, she wants to be an EP again, have a normal life, and there's nothing for her at CNN, nothing for her at ABC.
I knew that.
She's exhausted. Not like at the end of a long day. She's mentally and physically exhausted. She hasn't had 4 hours sleep in 2 years. She's been shot at in 3 different countries. And she's been to way too many funerals for a girl her age. She wants to come home.
Yeah, look. I don't
blame her. They don't have a job for her in Atlanta, D.C., or New York. Mackenzie, line up any 10 people, 8 of them will tell you she's the best EP in the business, and the other 2 will be stupid!
I'm one of the 8, but it's not going to happen.
It's happened.
No.
She's coming up from D.C. today with one of her people.
No, listen to what I'm telling you. I can't give my approval.
The deal's a day away from being signed. 3 years.
I have approval over my executive producer.
You would think so, wouldn't you?
I would, yeah.
Business affairs went through your whole deal.
I don't have contractual approval.
No, but you know what?
I don't have contractual approval.
You're up for renegotiation in 18 months. I'd have your agent put that clause
no,
on your
next. I'm walking down the street to William Morris. I'm going to renegotiate my contract.
It's right not going to go your way.
I generate an annual profit of $210 million on my own. That's not counting the lead-in freight I pushed to 9 and 10. That may be tipping money for this company, but it's not nothing. Well, what?
When was the last time you saw her?
I don't know, about 3 years ago.
Coincidentally, that's the last time you were a nice guy.
À l'écoute de cet extrait, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on est face ici à deux caractères, deux personnages très forts.
Moi, j'adore. C'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette série, c'est justement cette capacité à confronter des personnages qui s'adorent et qui, en même temps, ne se détestent pas. Mais on sent ici que ce qui joue, c'est un peu celui qui décide, tu prends des prérogatives qui sont les miennes ou tu passes au-dessus de moi. Et en même temps, ils s'adorent. Et donc, ça donne des engueulades qui sont fabuleuses. Et puis, il faut dire aussi ici que les deux acteurs sont en fait assez phénoménaux. Il faut quand même dire ce qui est. Moi, j'aime beaucoup cet acteur qui jouait Jack McCoy dans Law & Order. que je trouve ici, mais complètement irascible, parfois à côté de la plaque, on sent que c'est un vœu de la vieille, mais qui peut s'énerver pour rien. Et puis à côté de ça, celui qui joue Will, qui a un espèce de flegme anglais, ce qui est d'ailleurs très perturbant si le premier rôle dans lequel vous l'avez vu, c'est Dobby Dumber, vous allez forcément sentir un peu un décalage. Donc on a un peu cette espèce de force tranquille, mais très imbue d'elle-même, qui ne cesse de s'opposer à cette espèce de personne soupe au lait et qui, en même temps, s'apprécient très fort et sont relativement d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Donc, je trouve que les deux extraits que je vous ai passés, c'est typiquement le genre de dialogue et le genre de moment que j'apprécie énormément dans cette série. Une chose que j'apprécie beaucoup moins, c'est le côté soap-opéra, parce que la série, je vous l'ai dit, suit à la fois leur vie professionnelle et la manière dont ils voient leur métier, font leur métier, mais on suit aussi leur vie personnelle, et ça, on s'en rend compte dès le début. Forcément, si vous mettez le présentateur vedette et son ex en productrice, on voit très vite vers quel type d'intrigue on peut se positionner. Alors, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas? Je vous le dis pas, mais on voit qu'effectivement, il va y avoir cette question-là. Ou est-ce qu'ils vont s'engueuler? Ou est-ce qu'ils vont être capables de travailler ensemble? Donc, on voit petit à petit, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'au début, on sait juste que Will refuse de lui parler. Et bien obligé. Grâce à BP qui flambe, mais voilà. Donc on voit un peu, qu'est-ce que c'était que cette relation? Est-ce que c'était juste comme ça? Ou est-ce qu'ils étaient à deux doigts de se marier? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est terminé? Et puis comment ça se reconstruit? Jim Harper, qui est donc ce jeune producteur qui était ami de Mackenzie et qui arrive avec elle, va rencontrer Maggie Jordan, cette jeune journaliste. Maggie est en couple avec Don, le producteur de l'émission du soir. Et donc, on voit aussi arriver quelque chose de cet ordre-là. Et on va donc là aussi suivre l'évolution de ce petit triangle amoureux qui va se complexifier après. Je ne vous en dis rien. Et il y a d'autres couples dont je ne vous parle pas. Si vous voulez regarder la série, ce serait vraiment de trop gros spoilers. Donc, plus la série avance, plus j'ai eu l'impression que l'important devenait ces relations-là plutôt que le fait de dépeindre le journalisme. L'impression que j'ai eue, c'est pas l'impression de tout le monde, mais moi l'impression que j'ai eue sur la troisième saison, c'est qu'en fait c'était la seule raison d'être de cette troisième saison. C'est vrai qu'il y a cette histoire de documents qui fuitent, etc. Mais moi j'ai eu l'impression qu'en fait elle était là pour clôturer cet aspect soap-opéra et apporter globalement, quand il dit qu'il a une vision romantique de la profession, il a une vision romantique tout court, hein, parce que vraiment on a l'impression que le but est d'arriver au happy end final et on a l'impression de regarder une comédie romantique en fait un peu.
Il faut dire que la production de la série a été un peu chamboulée parce que les audiences n'ont pas suivi, elles étaient pas terribles, elles étaient pas non plus catastrophiques. De saison en saison, ils ont essayé d'adapter au goût du public et c'est probablement ça aussi qui explique ces différents changements de ton entre les trois saisons.
Oui, probablement. Et tout n'est pas inintéressant, hein, honnêtement, dans cette série. Il faut juste pas la regarder en se disant qu'on va avoir un propos sur les enjeux et les problèmes du journalisme aujourd'hui. On n'est pas face à ça. Je trouvais vraiment, dans la dernière saison, cet aspect soap-opéra devenait vraiment beaucoup trop lourd. Et puis surtout, si c'est pour que tout le monde se retrouve ensemble à la fin, c'est un peu bisounours, quoi. Enfin, c'est pas nécessairement ce qu'on attend d'une série de HBO, c'est quand même HBO.
Ce qui est un peu étonnant, je trouve, parce que au début de ce dossier, tu disais justement qu'il y avait une nouvelle productrice qui venait pour faire un journalisme de qualité, et donc on se dit, ok, on est peut-être quand même face à une série qui veut parler de choses un peu sérieuses et avoir une série de qualité, et puis au final, j'ai l'impression, en t'entendant parler, que c'est plutôt quelque chose qui se regarde pour rigoler ou ce genre de choses.
C'est pas du tout faux ce que tu dis, effectivement. Moi, ce que je retiens de cette série, ce sont ces dialogues acerbes qui m'ont vraiment fait rire. Hein. Donc, si vous cherchez une série un peu comme House et Cody, vous voyez quand House et Cody discutaient, House n'a aucun intérêt, presque pas d'intérêt médical. Hein. Mais par contre, ce qui était drôle, c'est quand House et Cody nous faisaient une espèce de duel à la lance de chevalier, donc ça c'était assez intéressant. Et ici c'est un peu ça, on a des dialogues qui sont vraiment drôles, et ce que je trouve très riche aussi dans cette série, c'est le panel d'émotions par lesquelles on passe très vite. Comme l'extrait que je vous ai montré, où on passe d'un Will McAvoy complètement défoncé et burlesque, à une engueulade, à on va sur antenne, et là ça devient du patriotisme, du lyrisme et du drame. Moi je trouve ça intéressant. Mais finalement ils ont un peu perdu cet aspect effectivement, en fait je sais pas s'ils l'ont perdu. Je sais pas s'ils ont voulu le faire, en fait. Je suis pas certaine qu'Aaron Sorkin ait eu envie, véritablement, de faire une série réaliste sur le journalisme. Je pense qu'il avait vraiment envie de montrer ce qui était possible et une vision optimiste du journalisme. Peut-être pour que cette série serve d'étendard pour tous ceux qui travaillent dans la profession et qui, du coup, allaient se dire, ah oui, on va faire ça aussi. Mais bon, l'aspect moralisateur, du coup, est un peu perturbant. Et puis, sur la fin, on a juste l'impression qu'ils ont envie de clôturer ces histoires d'amour, ce qui est bête, moi, je trouve, enfin. d'un certain côté.
On le sait, Aaron Sorkin, pendant la production de, je pense, la dernière saison de Newsroom, a annoncé que ce serait sa dernière série. Il ne voulait plus travailler dans le monde des séries par la suite. Il veut se concentrer sur le cinéma. On verra s'il va s'y tenir. C'est son choix, c'est sa décision. Mais j'ai lu plusieurs réactions sur Internet qui disaient de ses fans, des gens qui avaient adoré À la Maison Blanche, qui avaient adoré Studio 60 ou toute une série de ses autres séries précédentes. Quel dommage qu'Aaron Sorkin termine les séries sur The Newsroom. Est-ce que c'est ton ressenti ou pas ?
Moi, j'ai pas bien suivi À la Maison Blanche, mais j'avais quand même l'impression qu'effectivement, c'était une série d'une autre facture. Et par exemple, Studio 60, dont j'ai vu quelques épisodes, avait moins l'impression, puisqu'on n'était pas dans une rédaction. Donc, j'ai l'impression que sur The Newsroom, il s'est pas attaqué au milieu le plus évident, avec cette envie de d'abord peut-être faire un peu rêver les gens. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas une mauvaise série, je veux dire.
Tout n'est pas acheté.
Cette série, par rapport à d'autres, reste une série d'extrêmement bonne qualité, qui nous fait rire, qui peut nous intéresser, peut-être même nous interpeller, j'en sais rien. Je crois qu'aujourd'hui, les gens, parfois, attendent un peu autre chose aussi des séries télévisées. Si ce que vous attendez d'une série télévisée, c'est un moment de divertissement, où vous voyez des joutes verbales intéressantes, alors elle vous conviendra tout à fait. Alors est-ce qu'Aaron Sorkin a raison ou pas raison de terminer sur cette série-là ? C'est difficile à dire. Apparemment, La Maison Blanche a quand même été la série exceptionnelle de Aaron Sorkin et il a déjà de la chance d'en avoir eu une. Peut-être qu'aussi maintenant on en demande un peu trop aux séries télévisées ou peut-être qu'on se dit bah, dès que c'est sur HBO, d'office, ça va nous faire réfléchir sur la société contemporaine. Peut-être que les séries peuvent faire ça, mais peut-être pas toutes. Et donc il faut voilà, peut-être faire un peu le partage. Maintenant, j'ai l'intuition qu'effectivement sur cette série, les relations qu'il a pu avoir avec HBO n'ont pas non plus été toujours des plus soft et que c'est peut-être aussi quelque chose de difficile à gérer. On sait que le cinéma est un milieu où les auteurs ont beaucoup plus de cartes blanches. Et puis si c'est lui qui finance son film, c'est lui qui décide de ce qu'il met dedans. Donc c'est peut-être plus facile aussi à négocier, j'en sais rien. Moi, je pense que ça me donne envie de revoir À la Maison Blanche et de la voir véritablement. Parce que je me suis dit, bah, tiens, j'irais bien revoir ce travail d'Aaron Sorkin. Vous savez que moi, j'apprécie particulièrement les séries qui se mouillent les mains et qui mettent les mains dans le cambouis ou dans le sang. Donc forcément, j'ai un peu un sentiment de trop peu par rapport à cette série-là. Puis j'étais journaliste, donc moi, je sais à quoi ça ressemble une rédaction télévisée. Mais en même temps, voilà, je ne me dis pas que j'ai perdu mon temps en regardant cette série. J'ai vraiment rigolé. Et d'ailleurs, hier, en repréparant ce dossier, en retrouvant les extraits, je me suis laissé reprendre. C'est-à-dire que j'ai re-regardé quelques épisodes pour trouver des extraits et ça m'a refait rire et je me suis dit bah oui, il y avait quand même des chouettes choses là-dedans. Donc je pense qu'il faut pouvoir la regarder en tout état de cause, ne peut-être pas lui demander ce qu'on ne peut pas lui demander et pour Aaron Sorkin on verra, mais en tout cas ça reste quand même un grand auteur je pense et il a le droit d'avoir envie de faire un truc idéaliste. Il l'avait dit en plus, donc pourquoi pas ?
Eh bien voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. On vous invite évidemment à découvrir ou redécouvrir The Newsroom qui est édité en DVD. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain dossier. Merci Cindy, merci Sarah.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv